One, two, three.
Bonjour, je suis Hélène Delprat.
Bonjour, Didier Ottinger.
Mathilde Serrel.
Et Martin Kénéen. Hélène Delprat, vous êtes plasticienne, peintre, vidéaste, scénographe, blogueuse. Vous faites un truc par jour et vous les faites à votre façon. En ce moment, ce sont des films sombres, d'immenses peintures aux titres hilarants, des dessins radiophoniques, des photocopies qui sont présentées à la Maison Rouge, où vous avez décidé d'habiter avec Armes et Bagages, la Maison Rouge à Paris, une exposition qui ouvre demain et qui sera à découvrir jusqu'au 17 septembre. Et puis en septembre, on pourra vous découvrir également chez Christophe Gaillard, votre galeriste à Paris, à partir du 9 septembre. Quant à vous, Didier Ottinger, commissaire d'exposition, vous êtes directeur adjoint du Muséum National d'Art Moderne. Vous êtes rapide et maladroit, selon vos meilleurs amis, mais vous êtes aussi partageur, puisque on pourrait ajouter que, après nous avoir offert de découvrir Magritte, c'est désormais David Hockney que vous nous proposez de découvrir au Centre Pompidou, dans le cadre d'une grande exposition qui vient d'ouvrir et qui se déroule tout l'été et même tout l'automne jusqu'au 23 octobre. Et donc ce soir, c'est à la fois le jeu lugubre et lumineux des artistes qui éclabousse la table de ping-pong.
Ping-pong, la culture sans limite. Oh, yeah. Et
comment représenter la nature en mouvement? Ce temps qui passe et fait bouger les feuilles dans le vent, ces lumières qui jouent, ces saisons qui changent, ces humeurs du ciel. Question au cœur de l'histoire de l'art, et on l'a encore vu, tout particulièrement avec la foisonnante exposition Jardin au Grand Palais. Pas plus que la peinture, la vidéo, la photo ne suffisent à rendre ses réels et ses impressions. Aussi, la question de cette représentation mouvante de la nature reste non seulement totalement ouverte, mais continue en plus sans cesse de bouger. Aucun médium pour dire cette vérité. On la cherche par eux, on discute. Et je vous parle de cette conversation artistique éternelle, non seulement parce qu'elle habite le peintre David Hockney, dont la grande rétrospective vient de s'ouvrir au Centre Pompidou, où l'on voit dans les tableaux de piscine l'inspiration impressionniste de Claude Monet pour la représentation de l'eau et de la lumière. Mais je vous en parle aussi, car comme un prolongement numérique à l'exposition Jardin, l'exposition Hortus 2.0, en ce moment à Avignon, invite des artistes du digital à montrer, faire sentir et même toucher leur représentation du vivant. Exemple, l'installation vidéo monumentale de l'artiste italien Davide Caiola que l'on vient d'entendre dans la chapelle Saint-Charles, Pleasant Places. Ce son à l'orée du billet que l'on a entendu, c'est une synthèse de la question de la représentation de la nature. L'image vidéo des arbres en mouvement va comme se fondre, elle va couler progressivement grâce aux outils du numérique et devenir une peinture abstraite. Une quinzaine d'œuvres, installations et autres parcours sensoriels qui montrent à l'ère de l'anthropocène aussi, l'ère qui est la nôtre, cette machine humaine ayant modifié le vivant, et bien comment est-ce qu'on peut raconter ce changement? Pour reprendre la formule d'un pionnier de l'art numérique, Edmond Couchot, il faut bien installer un régime de négociation entre l'homme et la nature. Une question pour vous, Didier Ottinger-Carr. Oui, vous êtes directeur adjoint du Centre Pompidou, vous êtes commissaire de cette expo David Hockney qui vient de s'y ouvrir et aussi historien de la peinture moderne et contemporaine. Cette question de la représentation de la nature en mouvement, est-ce qu'elle habite au fond totalement David Hockney, au-delà de ce récit autobiographique en fait, de son travail que vous faites dans l'exposition? J'en ai parlé par rapport à l'influence de Claude Monet, il y a aussi ce retour maintenant de ses 80 ans à des peintures de paysages dans son Yorkshire natal.
Oui, alors je crois qu'on est au cœur du sujet que vous évoquez avec David Hockney, puisque on voit dans l'exposition un cycle de projections vidéo qui s'intitule Les Quatre Saisons et qui est la transposition par David Hockney et appliquée à l'image en mouvement de recherches qu'il a développées à partir de ses méditations sur le cubisme. Pour faire court, il y a 9 caméras qu'il a promenées dans un paysage dont il a assemblé évidemment les éléments pour créer une vision des quatre saisons, le même paysage exactement pris à 4 moments de l'année, évidemment différents, et avec la volonté qui est une volonté ancienne et très articulée de David Hockney, de nous mettre à l'intérieur du paysage, c'est-à-dire de nous sortir de cette vision qui est celle de la Renaissance classique, qui nous tient à distance des choses, pour, par un jeu complexe de points de vue multiples, diriger vers nous des sortes de tentacules et nous faire nous mettre véritablement dans le paysage lui-même.
On n'est plus à distance et d'une certaine manière, il y a aussi quelque chose de philosophique dans cette position de David Hockney. Je parlais de l'ère de l'Anthropocène. C'est vrai que la rencontre entre les nouveaux outils et en même temps cet homme au centre qui a tant modifié, il faut utiliser la liaison entre les outils et le...
Oui, alors cette notion de nouveaux outils amuserait beaucoup David Hockney parce que au moment où il a commencé à produire la peinture que l'on connaît, c'est-à-dire une peinture pour faire court, figurative et peinte à la main, on lui a opposé des méthodes beaucoup plus modernes de représentation du monde, soi-disant, qui étaient la photographie ou le cinéma. Et lui n'a eu de cesse de démontrer, pendant maintenant les 60 ans que se sont développées son œuvre, que la photographie était quelque chose de finalement très ancien, puisque c'est un principe de représentation du monde, d'abord qui apparaît au moment de la Renaissance italienne, et qui ne concerne qu'une infime partie de la population humaine. Il s'est intéressé évidemment beaucoup au paysage chinois en particulier, et dans ses tableaux, on voit quelle partie il tire de cette idée que le peintre n'est plus, encore une fois, ce cyclope immobile de la Renaissance italienne, mais plutôt, à la façon du paysagiste chinois, quelqu'un qui se promène le long d'un paysage.
Alors, vous n'avez rien non plus d'un cyclope immobile, Hélène Delprat, puisque dans votre exposition à I Did It My Way, donc qui s'apprête à ouvrir ses portes à la Maison Rouge à Paris, il y a des images mouvements, il y a des images fixes, il y a des peintures, il y a quand même aussi des têtes d'oiseaux. Quelle est la place à la fois du numérique, du digital, comme disait Mathilde, et de la nature dans ce qui s'annonce, votre exposition qui s'annonce un peu comme une sorte de forêt, une forêt magique ou peut-être hantée?
Peut-être, oui, plutôt hanté que plutôt cauchemardesque que magique et rose. Mon rapport aux choses numériques, finalement, il est assez limité. Enfin, tout mon rapport, je suis très low cost en fait, parce que j'utilise des matériaux très très simples et j'essaie de faire le maximum avec le minimum. Alors, mon utilisation des choses numériques, c'est pour le montage de films, choses comme ça, et puis mon utilisation d'Internet, mais je ne transforme pas, je ne fabrique pas des images numériques, pas du tout, pour le moment tout au moins. Et en fait, oui, peut-être que cette exposition, alors il y a des voix aussi dans l'exposition, et ça c'est très important. Alors évidemment, j'aime beaucoup la radio. Je suis tout à fait fascinée par cette espèce de dispositif qui est au-dessus de nos têtes et qui a comme écho dans l'exposition un travelling, par exemple. Parce qu'on on a réglé dans l'exposition cette espèce de travelling de cinéma, comme si, en fait, un projecteur continuait de tourner dans tous les sens, comme un œil de cyclope pour vous rejoindre. Donc ça tourne et ça capte, comme dans un cabaret, des morceaux de peinture, parce qu'il y a beaucoup de peinture. Donc c'est comment, avec la... Finalement, la peinture me permet de ne pas dire je suis peintre et puis c'est tout et puis voilà, ça m'intéresse pas du tout. Avec ce travelling, de me promener absolument partout, d'éclairer certaines choses, de découvrir des gens, d'utiliser des images de cinéma, de faire des documentaires, puisque dans l'exposition il y a la voix de Nicole Stéphane. Ça commence avec Nicole Stéphane, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'héroïne des Enfants Terribles de Cocteau, et j'ai fait un film sur elle là qui est en train d'être sous-titré, et ça se termine par Jean-Louis Trintignant. Et entre ça, il y a comme un garçon chanté par notre amie Sylvie Vartan, et il y a Lully, et il y a... Enfin, c'est assez chargé, je dois dire.
Mais il y a donc un paysage sonore. Est-ce qu'on peut dire que vos tableaux, et notamment vos très grands formats, certains peuvent faire 7 mètres de long, sont comme des paysages, parce qu'ils n'ont rien de paysage dans la figuration, dans le motif. Et pourtant, est-ce qu'on s'y perd? Est-ce qu'on y entre comme dans des paysages?
J'espère. C'est-à-dire que, en fait, pour le moment, mon livre des records, c'est 9,50 m. Non, mais j'adore faire des trucs très grands parce que ça me promène physiquement. Donc c'est vraiment
une randonnée quand vous peignez.
C'est pas une randonnée, mais ce sont des mouvements effectivement, d'essuie-glace, de retrait, tout ça. Et ce que j'aime beaucoup, enfin ce que j'essaie de faire, c'est tant au point de vue de l'image, c'est-à-dire qu'on puisse voir ça de très loin, et puis que plus on s'approche, comme dans les marginalia, comme des choses comme ça, on découvre des tout petits détails qu'on ne peut pas voir autrement, et aussi que des choses qui semblent peut-être joyeuses, anarchiques, etc., qui aient plusieurs lectures. Un sens que je veux donner, mais que je ne veux pas imposer. Chacun y fait ce qu'il veut, mais il y a beaucoup de choses qui, par exemple, entre des peintures, des films, tout se ramifie en fait. Mais ça, on n'est pas obligé de le savoir.
Il y avait la photographie, le fax, l'ordinateur, les imprimantes, l'iPad, la peinture en superposition chez David Hockney. Il y a une sorte comme ça de couche multifocale. C'est aussi un petit peu quelque chose qui vous rapproche de lui, Hélène Delprat ?
Alors, qui me rapproche de lui ? Pas vraiment. Tiens, je me disais tout à l'heure que David Hockney me faisait penser à l'acteur, je sais pas pourquoi, à l'acteur de Blow Up. Vous trouvez pas ?
Oui, avec sa mèche.
Je sais pas.
Longue.
Bon, bref, peu importe ça, on s'en fiche. Mais non, je suis très loin de David Hockney. Ce que j'aime beaucoup chez lui.
Et dans la superposition des couches, peut-être ?
Non, je crois qu'on n'est pas du tout dans le même dans le même truc. Mais j'aime beaucoup, par exemple, ses portraits de collectionneurs. J'aime beaucoup ces portraits, j'aime beaucoup ces espèces d'atmosphères un peu à la Hopper d'ailleurs. Et mais sinon, non, on n'a pas grand-chose en commun. Peut-être ces mélanges de... Moi, je connais... Enfin, en fait, en plus, je n'ai pas encore vu l'exposition parce que je n'ai pas eu le temps, donc je suis une mauvaise élève. Moi, c'est une espèce de... Comment dire ? C'est pas un bazar parce que c'est très organisé, finalement. Bon, qu'est-ce que je dis ? Je sais plus la question.
Vous étiez en train de dire que c'est, il y avait quelque chose de peut-être pas du bazar, mais oui, il y a superposition et
oui,
il y a bric-à-brac.
Oui, parce qu'il y a les articles, il y a les documentaires. Je parle pas des miens, enfin de mes choses. J'aime beaucoup lire la presse, j'aime beaucoup lire certains blogs qui sont absolument passionnants. J'aime beaucoup aller dans les bases de données. J'aime beaucoup faire des interviews. Voilà, je vais vous voler votre place. J'aime beaucoup faire des interviews, j'adore interroger les gens, je trouve ça super. Et puis surtout, ce qui est très difficile quand on interviewe les gens, c'est de les laisser habiter le silence, quoi. C'est-à-dire de ce que vous êtes en train de faire, de pas couper, de pas... Quand on filme et quand on interviewe, c'est super difficile parce qu'on a envie de... Quelquefois, ça, on recoupe, on se dit « Ah, j'aurais dû me taire !»
Mais c'est terrible parce qu'on a envie d'entrer dans le silence, Didier Ottinger. Hélène Delprat évoque les ramifications qui relient et qui connectent toutes ses œuvres et toutes les façons qu'elle a de faire ses trucs chaque jour. À part quelques images très connues de David Hockney, on pense à un Mont Fujiyama avec une orchidée devant ou une piscine californienne. Ce qu'on découvre dans cette exposition, je crois, c'est toute la versatilité de Hockney, anglais et californien et retour, symboliste peut-être, hyper réaliste peut-être, qui renverse les perspectives, portraitiste, vous l'avez dit, Hélène Delprat, mais aussi peintre du paysage, Mathilde en parlait, peintre et photographe. Est-ce qu'on peut parler de ramification aussi pour Hockney dans toutes les dimensions de son œuvre ?
Alors, il faut peut-être revenir au point de départ de cette versatilité que vous évoquez, c'est-à-dire la découverte par David Hockney en 1960 d'une rétrospective de Pablo Picasso. Il est alors un tout jeune homme, il entre à peine au Royal College of Art et il découvre l'exposition de quelqu'un qui est considéré déjà à l'époque comme un génie universel, mais dont il est frappé par la diversité des styles qu'il est capable d'aborder. Et là, pour lui, c'est la leçon absolue, en se disant, mais au fond, chacun des styles qui nous est proposé à l'époque, parce que lui, évidemment, vit et commence son œuvre à un moment où, par exemple, l'abstraction est dominante. Et lui, très vite, se dit, mais Picasso a pratiqué, à un moment donné, il a flirté avec l'abstraction. Il a été bleu et rose, et puis cubiste, et puis un peu surréaliste, etc. Et au fond, chacun des moments de l'histoire de l'art qui nous est présenté comme étant une forme de mainstream du moment auquel il faudrait souscrire pour être un peintre de l'époque, ce n'est au fond qu'un style parmi d'autres. C'est ce qu'a montré Picasso, c'est ce que montre le déploiement de son œuvre. Et dès lors, David Hockney se dit oui, tout n'est que style au fond, tout n'est que façon momentanée de représenter le monde. Et c'est en combinant les différents ces différents styles au gré de l'expression qui est la mienne et de ma volonté de rendre compte de ma présence au monde que je vais pouvoir piquer du côté du pop art, piquer du côté de l'hyperréalisme, piquer du côté de l'impressionnisme, j'en passe et des meilleurs.
Bazar organisé et style versatile avec vous ce soir, Hélène Delprat et Didier Ottinger pour l'exposition David Hockney.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
C'est l'inconnu qui fait peur. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu qui fait peur. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu qui fait peur. C'est l'inconnu.
c'est l'inconnu qui fait peur, c'est la bande-annonce qu'on trouve sur les internets, sur les réseaux, dans les tubes de votre exposition I Did It My Way, donc qui ouvre demain à la Maison Rouge à Paris et qui est à découvrir jusqu'au 17 septembre, Hélène Delprat. Il y a cette idée de la peur et associée à ce terme, il y a aussi l'horrible. L'horrible et le beau, beau et l'horrible, aimez-vous crier, chanter. L'horrible, étymologiquement, c'est le hérissement. Donc c'est ce qui fait peur, mais c'est aussi faire des horreurs, c'est aussi être indécent. Alors quelle est la part de la peur et du désir?
Je pense que la peur, elle est absolument nécessaire, parce que je pense qu'il faut, avoir peur de soi. Et une des... J'imagine, enfin, je ne sais pas s'il a eu peur, mais quand Magritte a fait ses peintures vaches, je suis extrêmement admirative, parce que je me dis, mais comment a-t-il pu supporter le fait de générer ces horreurs? Enfin, il faut bien le dire, excusez-moi.
Il les a fait à dessein. Hein.
Mais bien sûr.
Didier était commissaire de la grande exposition Magritte.
Mais malgré tout, le faire à dessein, je sais bien, il faut l'assumer quand même.
Ça dépend. En l'occurrence, il entendait bien gifler le bon goût parisien.
Oui, néanmoins, je trouve que c'est extrêmement difficile de sortir de son petit chemin, même si on en a l'intention et même si on veut déranger. C'est quand même...
Il l'avait fait. Il l'avait fait à plusieurs reprises.
Ouais, ouais. Mais pour qui ne connaît pas votre travail, d'un mot, quel est le rapport avec les images de Magritte? Parce que, en particulier, votre peinture est très loin.
Ah oui, complètement loin.
De la peinture de Magritte.
Ce que j'aime dans ce café Magritte, c'est, sans même parler de peinture, c'est changer de registre complètement et ne pas avoir le ronron du peintre qui, de 7 à 77 ans, peint le même machin. Ça, c'est pas très intéressant. C'est le fait, quand je disais le fait de se faire peur, c'est, avant de faire peur aux autres, se dire mais oulala, est-ce que j'ose faire ça? Moi, je suis assez catastrophée quand je vois certaines de mes, enfin pratiquement toutes mes peintures d'ailleurs, qui sont hyper chargées. Je voudrais être Barnett Newman. Moi, je veux pas être ce que je fais. Ce que j'aimerais, c'est être un artiste conceptuel ou quelqu'un d'assez minimal. Et pas de chance, c'est le contraire. Alors bon, je n'ai aucune intention de... Si, dans l'exposition, il y a un couloir qui s'appelle le couloir du goût, qui ne s'appelle pas, mais quand on a travaillé avec Benoît Pfovadel, qui est un décorateur de cinéma et qui est un peu une espèce de traducteur pour moi, et qui connaît bien mon travail, et il me dit, allez, on regarde, on cherche, je lui dis, je voudrais faire ça, mais d'ailleurs, tu devrais faire ça, on essaye, et on essaye tout. Bon, bref. Donc le couloir du goût, il est moche, mais comment réussir à... C'est pas le couloir du mauvais goût, c'est le couloir d'un goût que je trouve moche mais qui me plaît. Alors comment on fait pour accepter la laideur, quoi?
Didier Ottinger, c'est au cœur de votre travail, c'est entre Pompidou d'ouvrir à un autre goût.
Ça me conduit à mesurer l'écart qui existe entre, en tout cas, ce que vous formulez et ce que revendique David Hockney. Vous parlez de rêve, de cauchemar, d'horrible, etc. David Hockney, lui, s'inscrit résolument dans une forme de positivité qui se résume d'ailleurs dans les deux mots qu'il a inscrits à la fin de l'exposition à l'adresse des visiteurs, Love Life. Et c'est ça aussi qui fait la grande singularité de David Hockney dans le paysage, y compris de la peinture moderne ou contemporaine. Il est un des très rares, et peut-être le seul à ma connaissance, à revendiquer pleinement l'héritage de quelqu'un comme Matisse. Mm-hmm. C'est-à-dire dire « je peins pour rendre compte de la joie que j'éprouve à me trouver ici sur cette planète ».
Mais moi je traite Love Life.
Oui.
Hélène Delprat.
Je très love life.
Vous très love life malgré les cauchemars, bien sûr.
L'horrible est beau et...
Non, mais j'adore.
La peur est douce.
C'est une chance extraordinaire de faire ce que j'ai à faire, c'est ça, de faire my way. J'adore ça.
Mais justement,
je trouve que c'est une chance de dingue, quoi.
Mais justement, peut-être que cette idée de cet inconnu qui fait peur, c'est d'essayer de susciter de la peur sur des choses sur lesquelles on n'en a pas, et de rassurer sur ce qui est effrayant. On voit qu'avec vous, les loups ne font pas peur, qu'il y a quelque chose de ce qui devrait être cauchemardesque qui ne l'est pas, et d'un cauchemar qui peut naître.
C'est parce que vous êtes très courageuse, vous n'avez peur de rien, Mathilde. Non, je sais pas, mais en même temps, je ne fabrique ni de la peur ni de l'horreur, mais j'aime beaucoup l'excès. Que ce soit au cinéma, dans les séries B, dans les attitudes, dans la mode. J'aime beaucoup l'excès. J'aime pas tellement le tiède. Pardon.
Pour ceux qui ne connaissent pas votre peinture, quels sont les sujets alors que vous abordez pour illustrer ces...
J'illustre pas.
Non.
Je le dis aimablement.
Il y a qu'à lire les titres de certaines de vos peintures. Hein. L'homme-singe en fausse fourrure a disparu. Peinture ayant été détruite par Göring, qui est présent sur la toile en 1937, et reconstituée en 2016.
Mais les titres, c'est encore une autre chose. Donc, je suis conservateur en chef. Enfin, j'ai un poste moins important que Didier, mais je suis conservateur en chef de mon musée des titres. Et donc, c'est ce musée des titres que Jean-Louis Trintignant a bien voulu enregistrer et sur lequel se termine l'exposition. Je ne sais plus encore une fois la question. Pardon, Didier.
Quel était le sujet?
Les motifs. Alors, évidemment, il y a des motifs qui peuvent... pas des thèmes, mais des choses qui se reproduisent comme ça, de tableau en tableau, et qui peuvent se reproduire aussi dans la façon d'écrire, mais je n'ai pas de... Disons, j'établis pas tellement d'hierarchie. Je suis très intéressée par le XVIe siècle, par les grotesques. Là, Philippe Morel est en train de, pour la monographie qui va sortir en septembre, m'a écrit un texte. Et j'aime beaucoup avoir des regards de gens qui sont plutôt spécialisés dans une autre époque. J'aime beaucoup le XVIIe, le XVIIIe pour le, pour les espèces de portraits comme ça. J'ai des portraits qui se rapportent, qui s'appellent des portraits ennuyeux, qui sont des espèces de scènes comme ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces portraits de collectionneurs de Gainsborough.
Donc,
vous voyez. Par exemple, il y a un artiste que j'adore, c'est Hogarth. Ah, il a fait quelque
Absolument.
Chose.
Et Hogarth est très présent. Alors, non seulement à plusieurs reprises, il le cite directement, dans le cycle des gravures, par exemple, du Rex Progress, qui reprend. Les titres du
Hockney cite Hogarth.
Voilà. Oui. On le retrouve un peu plus loin dans l'exposition avec un tableau de 75 qui est une copie d'une gravure réalisée par Hogarth pour un frontispice, etc.
Copie
agrandie et colorée.
D'accord.
Et Hogarth, au fond, est présent, mais presque de façon constante dans l'œuvre de David Hockney, dans le regard qu'il porte aussi sur la société de son temps.
C'est magnifique.
Toute l'ironie de Hogarth, parfois caustique, parfois drôle, etc. On retrouve ça en permanence chez David Hockney. Mais lui adresse sa critique, s'il y en a une, plutôt à l'univers de l'art contemporain, qui lui était, il faut le dire, souvent assez hostile.
Cinéma, scope. Ouais, c'est ça. Voilà, les yeux sur le visage, les moteurs.
Hélène Delprat pousse un cri.
Oh là 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 là, il y a plein. Alors là, il y a une liste.
Dans son rêve, venait d'apparaître Edith Scob. Toute couverte de poils comme un gorille. Quelle horreur, mais quelle horreur! Elle était debout sur une sorte de piédestal en or sculpté de dragons, rats et autres bêtes répugnantes. Quelle apparition effrayante! Quelle extravagante femme à barbe! Car elle était bel et bien une femme à barbe! Qui l'a vue une fois ne peut plus l'oublier. On aurait pu la surnommer la femme ours, la femme singe. Mais la femme la plus laide du monde est ce qui lui convenait le mieux.
Alors, nous sommes retournés dans le temps en 2013 pour écouter cet objet radiophonique inventé par Hélène Delprat. Comment j'ai inventé Edith Scob à l'instant avec ce rêve d'une Edith Scob couverte de poils, femme à barbe, figure de la métamorphose, forcément en résonance avec vos travaux. Comment la radio est devenue dans votre imaginaire, et on parlait des sujets, mais là parlons des sources, une sorte justement de source intarissable d'imaginaire, de création, peut-être autant que la littérature chez vous, mais c'est vraiment la radio qui vous fait dessiner, peindre, écrire.
Dessiner surtout, c'est-à-dire que dans mon atelier, j'écoute France Culture toute la journée. J'écoute, j'entends, parce que j'écoute pas toujours, mais j'aime bien avoir ce ronron un peu. Quelquefois, je dresse l'oreille, je me dis tiens moi. Et quand je dessine, j'écoute également la radio et également France Culture. Et beaucoup de choses, de phrases que j'entends passent dans le dessin parce que je les écris, et après, quelques temps après, je ne sais absolument plus de quoi il s'agit. Donc ça donne une espèce de recul comme ça, d'enchevêtrement de mots qui perdent leur sens, mais il y a quand même des phénomènes politiques qui me frappent, que quelqu'un qui est interviewé par exemple va raconter un truc, je vais le noter, et voilà, et c'est une espèce de point de départ d'un mouvement Oui, voilà, c'est des dessins radiophoniques. J'appelle ça des dessins radiophoniques.
C'était donc un atelier de création radiophonique sur France Culture, mais finalement, on retrouve avec la radio, même si c'est du son, votre rapport à l'écrit. Vous étiez dans votre musée des titres tout à l'heure. Vous êtes aussi lectrice de Dante, de Virginia Woolf. Il y a une superposition de littérature. Là aussi, il y a des multifocales littéraires. Quand on va sur votre blog, créé donc en 2004, c'est magnifique. Il y a des notes sur les stoïciens. Il y a votre journal intime, c'est très... En quoi, finalement, il y a quelque chose de l'écriture, fondamentalement du texte
dans... Mais, en fait, le blog, je me sens assez mal avec cette idée parce que je trouve ça incroyable, quoi, d'écrire. Bon, je raconte, je suis pas non plus, comment s'appelait-il, je viens d'acheter Mathieu Gallet.
Vous en parlez dans votre journal, d'ailleurs.
Ouais, j'aime beaucoup, mais il est quand même très, il est terrible. Mais, je suis pas méchante, je veux dire, j'ai des entrées privées, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, bon. Mais, je trouve ça très bizarre. Mais, si je n'écris pas de cette façon, je n'écris pas du tout. C'est-à-dire que je pourrais écrire et puis faire des fichiers, tout ça. Mais, parce que, à la main, impossible, mais dès que j'ai les mains sur un clavier, je suis aussi pipelette. Que je le suis, enfin, je suis pas une pipelette dans la vie, mais où je me tais, ou si vous me lancez, vous le voyez bien, vous ne pouvez plus m'arrêter. Donc, hop, j'écris. Et puis, il y a des choses qui se passent, puis je vais chercher une image qui va. Et dans le musée des titres, il y a beaucoup de titres d'entrée de blog. Mais ce n'est pas le journal de Kafka, mon blog.
Donc, il y a cette importance.
Ouais, c'est un cabinet de curiosité qui vaut le détour.
Il y a cette importance du mot journal que vous aimez à prononcer. Ce sont parfois les très riches heures de votre vie, Hélène Delprat. Mais est-ce qu'on peut pas parler, Didier Ottinger, à propos de l'exposition David Hockney, dont vous êtes le commissaire, aussi d'un journal intime? Vous l'avez décidé de l'accrocher, de la présenter sous forme chronologique. Et vous dites qu'il y a toujours de l'autobiographie dans la moindre toile, le moindre dessin d'Hockney. C'est un journal?
Alors c'est sans doute la deuxième grande leçon que Hockney puise chez Picasso très très tôt. C'est qu'effectivement, chaque œuvre, chaque dessin, chaque collage, on le sait bien, chaque peinture de Picasso peut renvoyer à un événement de sa vie, à une rencontre, à un sentiment, etc. David Hockney retient ça, évidemment. Et c'est vrai que quel que soit le sujet abordé, les piscines, on pourrait les lire aussi sous l'angle autobiographique, les paysages du Yorkshire, évidemment. C'est vrai qu'il y a là un vaste journal qui se déploie devant les spectateurs.
Vous avez parlé d'un journal intime du plaisir.
Oui.
Cette dimension-là, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Ça, c'est vraiment le parti pris de David Hockney. Et c'est vrai que récemment, il était confronté à un certain nombre de journalistes pendant le vernissage qui lui posaient la question, mais... Pourquoi c'est si gai? Pourquoi vous n'avez pas l'expression du désespoir, de la mélancolie, etc.
Parce que souvent, c'est un déversoir aussi de mélancolie. Donc.
Voilà, c'est pas non plus le total bisounours. Mais il expliquait que lorsqu'il a des sentiments qui ne sont pas ceux du rayonnement, de l'exaltation et du bonheur de vivre, à ce moment-là, il se repliait et il s'adonnait à la lecture ou à la vision de séries TV, mais jamais... Il ne produisait d'œuvres dans cette étape psychologique.
Donc on ne crée pas dans la souffrance, contrairement à ces espèces d'idées reçues. On crée dans la joie uniquement chez les
gens. Bien sûr.
Mais Hélène Delprat, oui, allez-y, c'est vous l'intervieweuse.
Ce un peu vieux monsieur maintenant, comment
80 ans.
Oui, mais comment?
Il est incroyablement stimulé par toutes les informations qu'il peut recevoir. Et par exemple, là, il n'a qu'une idée en tête aujourd'hui, c'est revenir ce qu'il sera fait la semaine prochaine dans son atelier pour prolonger ce qu'il a esquissé juste avant de venir ici pour l'exposition, c'est-à-dire une nouvelle étape dans sa réflexion sur la recherche appliquée à la perspective inverse. En ce moment, il saoule absolument tout le monde avec un ouvrage qu'il a sorti du fin fond de l'internet d'un auteur obscur qui s'appelle Pavel Florensky, qui est un auteur russe qui a écrit en 1920 un ouvrage consacré à la perspective inverse. Et ça le fascine à un point qu'il a produit un certain nombre de tableaux que l'on voit juste à la fin de l'exposition, et son idée maintenant, son attente, c'est de retourner dans l'atelier pour en concevoir d'autres, dont il a déjà toutes les esquisses.
Mais alors, on entend la dimension théoricien, intellectuelle du travail de David Hockney. Vous insistez, et c'est ce qui saute aux yeux peut-être de façon manifeste et au premier abord, sur le plaisir, sur la joie, sur l'exaltation qu'il y a dans sa peinture et dans son travail sur la photographie aussi. Mais on évoquait le goût, le mauvais goût, avec votre couloir du goût à vous, Hélène Delprat. Je crois que c'est Cécile Debray, qui vient d'être nommée directrice du musée de l'Orangerie, qui dit que vous avez le goût du mauvais goût, Didier Ottinger. Mais est-ce qu'à vos yeux, oui.
On en dit des choses bizarres sur mon
corps. Et adorables. Est-ce qu'à vos yeux, Hélène Delprat, il y a heureusement du mauvais goût, et peut-être même de l'horrible, chez David Hockney?
Je ne pense pas qu'il y ait de l'horrible.
Non.
Et je ne pense pas qu'il y ait du mauvais goût non plus. Enfin, à mon sens, non. C'est pas ce... Enfin, rien ne me... Des images d'Hockney peuvent m'arrêter, mais rien ne me... comment dire, rien ne me révulse ou je ne vais pas dire qu'elles sont idylliques, mais enfin il y a quand même
je pense que le mauvais goût qui était évoqué tout à l'heure à mon propos, c'est plutôt le goût du grotesque, de la caricature.
Bien sûr, ouais.
Voyez, c'est pas le lait en soi, c'est un certain excès qui peut s'exprimer, par exemple dans la peinture d'un Philip Guston, dans la peinture d'un George Condo, voilà.
Oui, et qui nous dérange au sens où elle nous fait nous déplacer.
Oui, mais c'est surtout une position par rapport au monde. C'est une façon de hausser le ton, c'est une façon de mettre tous les potentiomètres à fond.
Mais est-ce qu'il hausse pas le ton, David Hockney, avec ses couleurs saturées, par exemple?
Oui, mais il s'inscrit encore dans une histoire très déjà bien balisée, repérée. Quand il hausse au maximum le ton devant les paysages du Yorkshire, on retrouve bizarrement celui qu'il vénère, Van Gogh. Ailleurs, on retrouve peut-être Edouard Munch. Il les rejoint, ceux-là. Je ne sais pas s'il les dépasse, mais en histoire de l'art, on ne dépasse jamais. Y a pas, évidemment. Ça fait longtemps qu'on est sorti de cette vision progressiste de l'histoire de l'art.
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui interroge elle aussi la perspective inversée, non pas à coups de pinceau, mais de raquettes. À suivre, nous entrerons, tel un baigneur dans une piscine, à l'intérieur de cette exposition, David Hockney au Centre Pompidou, et toujours en la compagnie d'Hélène Delprat, qui ne crie pas au loup.
Ping Pong. La culture sans limite.
Alors, l'avant-garde, c'est de la peinture, des arts plastiques, mais aussi de la musique. Et dans les années 1970, à La Réunion, l'avant-garde musicale électrocutait le maloya, ces chants d'esclaves enchaînés dans les plantations de sucre, de la musique de bal, de la musique rebelle qui délivre en créole le blues de l'océan Indien, des chansons cadencées réunies et ressuscitées sur la compilation Ote Maloya par le duo de DJ La Basse Tropicale. Alors, danse maloya.
Son sinapan, l'arrivée, gramoun, la tisane, la babon. Dans la cage, la chasse, nous n'est pas tous les ans. Je suis mais va trouve la raison. Maïla, il veut pis pousser dans la terre, nana, la poison. La rivière, si ouvre la pêche, la malheur, là aussi, la pluie camaron. Danse maloya pour mettre l'eau de la dent juste minuit. Passe maloya, la pointe, la tisane pour Kuyali. Danse maloya pour mettre l'eau de la dent juste minuit. Passe maloya, la poêle, la tisane pour Kuyali. Léon qui connaît que les tremble le matin, la lumière sous son pied flamboyant. Il est vieux, les connaît, les aussi dans la main, il raconte à autre auparavant. Mauvais monde, il connaît rien que la tisane, par exemple, le quartier d'Aran. Heureusement, vous faites nous bonheur si la terre maloya, elle est toujours à l'heure. Danse maloya pour mettre l'eau de la dent juste minuit. Passe maloya, la poêle, la tisane pour Kuyali. Danse maloya pour mettre l'eau de la dent juste minuit. Passe maloya, la poêle, la tisane pour Kuyali. L'arrivée, gramoun, la tisane, la babon. Dans la case, la chasse, nous n'est pas tous les ans. Je dis, mais va trouve la raison. Maïla, il veut pis pousser dans la terre, nana, la poison. La rivière, si ouvre la pêche, la malheur, là aussi, la pluie camaron. Danse maloya pour mettre l'eau de la dent juste minuit. Passe maloya, la poêle, la tisane pour Kuyali. Danse maloya pour mettre l'eau de la dent juste minuit. Danse maloya, la poêle, la tisane pour Kuyali. Danse maloya pour mettre l'eau de la dent juste minuit. Danse maloya, la poêle, la tisane pour Kuyali. Danse maloya pour mettre l'eau de la dent juste minuit. Danse maloya, la poêle, la tisane pour Kuyali. Danse maloya pour mettre l'eau de la dent juste minuit. Danse maloya, la poêle, la tisane pour Kuyali. Danse maloya pour mettre l'eau de la dent juste minuit. Passe maloya, la poêle, la tisane pour Kuyali.
Maloya, ton tisane, interprété par Michou sur l'irrésistible compilation Ote Maloya, parue chez Stott Records, Difference.
A bigger splash. David Hockney.
David Hockney. Peintre, comique, génie, la star du Londres branché des années 60. Qu'est-ce qu'il fait donc courir ?
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Tout ce qu'il désirait était d'être seul pour peindre. Des peintures que le monde de l'art demandait. Mais qu'est-ce qui lui a fait désirer un plus grand coup ? À quel ami pouvait-il se fier ? Était-ce Henry ? Aussi Clark.
Did faithful Mo help? Or Mick?
Le fidèle Mo ou Mike?
What of the beautiful Celia?
Ou encore la belle Celia?
Whatever happened?
Peu importe ce qu'il s'est passé durant les flamboyantes 60s, elles ont défini les codes du glamour.
A Bigger Splash. Au début des années 70, Jacques Azan filme David Hockney pendant 3 ans. Ce film deviendra culte, sortira en France en 1974, bien sûr. Il sera dans cette grande rétrospective au Centre Pompidou. David Hockney qui vient de démarrer. Il y a aussi une rencontre avec Jacques Azan qui a lieu justement demain, je crois exactement, jeudi 22 juin à 20h au cinéma de Centre Pompidou avec vous, Didier Ottinger, qui est commissaire de l'exposition. A Bigger Splash, c'est plusieurs choses et j'aimerais qu'on arrive à défaire avec vous les ramifications du mythe. Il y a évidemment la Manche Lessinger, ce Californien mythique. Il dit, David Hockney aime le Californien en moi. Je ne suis qu'un objet et un objet de représentation. Et il y a aussi Jacques Azan qui, en fait, ne nous fait pas, comme on peut le croire, une sorte de précipité in vivo d'une bohème et d'un hédonisme en Californie, mais qui fait aussi des personnages. Il y a une écriture dans ce film. Il y a une mystification. On ne nous livre pas 3 ans avec David Hockney. Donc, est-ce qu'on peut voir peut-être ces deux aspects-là et puis progresser avec vous, Didier Ottinger, parce que là, on est à la surface de la piscine.
Oui, d'accord. On peut parler soit du tableau, soit du film. Les deux sont assez peu connectés. En tout cas, chez David Hockney, il n'y a pas de relation directe, ou s'il y en a une, il ne veut pas tout à fait l'établir.
Parlons du film. Du film, oui.
Lorsque le film est sorti, David Hockney vivait à Paris. Et il a découvert le film et il en a été consterné. Et ses amis les plus proches nous racontent qu'il a même voulu, il a eu l'idée en tout cas, de donner une somme considérable à Azan pour que ce film ne sorte jamais et qu'il ne soit pas vu. Pourquoi ? Parce qu'il révélait en fait une intimité de David Hockney. Il exposait des scènes évidemment qui étaient assez pénibles pour lui puisqu'il venait de rompre sa relation avec Peter Schlesinger. Et vous vous souvenez, dans le film, on le voit batifoler avec d'autres personnages. Et David Hockney est par définition et même par culture, je dirais, quelqu'un finalement d'assez secret, d'assez pudique. Et ce film lui semblait tout à fait obscène quant à la révélation de son intimité, de sa vie privée. C'est la raison pour laquelle il a pas vraiment apprécié ce film. Et encore aujourd'hui, l'idée de le revoir est pour lui tout à fait impossible.
Et pourtant, c'est un film. C'est-à-dire que c'est aussi un récit fictif.
Oui, c'est un film qui a été écrit, qui raconte une histoire qui est pas tout à fait celle, mais peu importe, et qui s'applique surtout, plutôt qu'au Bigger Splash, à ce tableau qui s'intitule Portrait of an Artist, qui est également dans l'exposition. Le sujet du film, c'est celui-là, au fond. C'est que se passe-t-il entre ces deux individus, l'un qui est au bord de la piscine et qui regarde un autre qui est en train de nager sous l'eau.
Oui, vous dites Portrait of an Artist, ce tableau d'importance. Rappelons que, en effet, on trouve dans cette exposition les différentes facettes ou les ramifications, pour reprendre le terme d'Hélène Delprat, de l'œuvre de David Hockney, avec ses paysages, avec ses photographies, avec ses portraits qui plaisent d'ailleurs tant à Hélène Delprat, les portraits de ses amis ou des personnalités du monde de l'art. Et il appert que vous avez, après de longues années de compagnonnage, obtenu votre portrait, Didier Ottinger, peint par David Hockney. Alors, entrons dans votre intimité en toute impudeur.
Ça se mérite.
Ça ressemble à quoi? Alors, Didier Ottinger, dans l'œil de
Hockney. On l'a dit, et tout le monde le dit, David Hockney n'a peint que des personnages qui font partie de son entourage le plus proche. C'est-à-dire des gens avec lesquels il a une familiarité réellement de longue date. On ne devient pas un sujet de David Hockney simplement claquant du doigt. Et moi, c'est vrai que je le connais depuis l'époque où j'ai réalisé l'exposition en 99 au Centre Pompidou, autour des Grands Canyons, et je le voyais assez régulièrement dans son atelier à Los Angeles, en me demandant quel est le jour où peut-être je vais moi aussi avoir droit à mon portrait. C'est arrivé au moment, et c'était peut-être pas le moment idéal, c'est au moment où il a réalisé cette série de 82 portraits. vous savez, sur le même format, pratiquement sur les mêmes fonds, etc. Et lorsque j'ai vu ces 82 portraits rassemblés à la Royal Academy de Londres, évidemment, moi j'ai eu tout de suite un réflexe, c'est de me dire, oui, ça évoque pour moi quelque chose de très précis, qui est lié à la culture de jeunesse de David Hockney, qui était un immense lecteur de Proust. Et je me suis vu dans cette exposition en me disant, mais oui, finalement, ça, il a 80 ans aujourd'hui, c'est le bal des Guermantes. C'est-à-dire qu'on retrouve dans cette galerie de portraits absolument tous ceux qu'on voit dans l'exposition lorsqu'ils les dessinent et les peint quand ils ont 20, 25 ans, 30 ans. Et là, on les retrouve 40 ans après. Et le problème, c'est que moi, je me suis vu infliger le même traitement que ceux qui avaient 40 ans. Donc, à un moment donné, j'ai dit à David Hockney, mais bon, j'admets la chose. Au moins autant, évidemment modestement, à la façon dont peut-être Gertrude Stein a réagi quand Picasso a fait son portrait, et où elle s'est dit, bon, c'est pas tout à fait moi, et Picasso lui avait répondu, vous en faites pas, dans 20 ou 30 ans, vous allez ressembler au portrait. Donc c'est comme ça que je me console. Donc c'est pas très valorisant de devenir modèle chez David Hockney, parce qu'il le dit lui-même, les portraits sont assez peu flatteurs. C'est pas quelqu'un qui enjolive le réel et les individus qui sont autour de lui, nécessairement.
Est-ce que c'est valorisant d'être votre propre modèle, Hélène Delprat ?
Ben, je fais avec ce que j'ai, de manière générale. Donc, je suis mon premier matériau. En fait, ça, c'est plutôt pour les films ou la vidéo, ou, enfin, pour le moment, parce que mon idée, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt un court vrai film. Mais là, j'ai aucune idée. Je sais pas quoi faire, c'est ridicule de dire ça. Je sais ce que je voudrais faire, mais bon.
Mais Edith Scob, peut-être que c'est le début d'une idée, de quelque chose qui vous a inspiré, les yeux sans visage de Georges Franju, dans lequel elle joue, qui la révèle. Oui. C'est un film qui vous hante.
C'est-à-dire que c'est encore un aspect de ramification, parce qu'il s'avère que donc Nicole Stéphane, héroïne des Enfants Terribles, mais résistante, mais première productrice de Marguerite Duras. J'aime beaucoup parler d'elle, parce qu'on ne parle pas d'elle. C'était une femme extraordinaire. Et elle a été, après un accident qui l'a empêchée de poursuivre son truc de comédienne, elle a été assistante de Franju. Donc, Franju, et après on saute. Alors évidemment, elle me le décrit, la voix de Franju, comment il faisait. Elle a produit des courts-métrages sur le TNP, sur les Veldives. Je ne sais pas où je m'en vais là.
Alors, là vous étiez sur votre film balle. Et l'inspiration peut-être des films de Franju à l'intérieur, ou d'un personnage comme Edith Scob, de ces ramifications peut-être qui nourrissent le film que vous ferez.
Oui, alors non, on parlait de moi comme mon premier outil et comme modèle. C'est vrai que à un moment donné, j'ai beaucoup moins peint, et tous les jours, donc je me mettais devant la caméra, j'inventais des trucs, encore une fois comme un journal filmé, avec une espèce de mise en scène, de décor très, très sommaire. Et après, dans les fausses conférences, ça a continué. Voilà, c'est pas très passionnant ce que je suis en train de raconter. Je suis en train de m'ennuyer de ma propre phrase.
Mais en même temps, c'est l'inconnu qui fait peur. Il y a peut-être quelque chose de commun, parce qu'on va pas mettre les artistes en résonance ou en rencontre de manière artificielle, mais il y a quand même une façon de se penser contre. On se rend compte que David Hockney, lorsqu'il est sur un médium et qu'il l'épuise, il va aller vers une autre forme figurative, aller éclater le champ qu'il était en train de surexplorer. Lorsqu'il va se mettre à faire des costumes aussi et des corps, là, hop, on va matérialiser dans l'espace les envies qu'on a. Donc, est-ce qu'il y a, peut-être chez vous, Hélène Delprat, aussi chez David Hockney, une tentation de toujours repenser contre la dernière proposition plastique ?
S'il y a quelque chose une idée contre laquelle il se bat, il s'est battu pendant 60 ans d'activité, c'est celle qui pouvait, à un moment donné, laisser entendre que la peinture devenait un médium obsolète. Et c'est la raison pour laquelle il s'est emparé, mais alors avec une avidité, mais incomparable, on le voit dans l'exposition, de absolument tous les outils technologiques qui apparaissaient sur le marché. Il était chaque année presque au salon de l'innovation, de la photographie, ensuite de la photocopieur, du photocopieur couleur, etc. Et, parce qu'il avait, lui aussi, et il le dit dès des interviews très très précoces qui sont rapportées dans un certain nombre d'ouvrages, conscience de ce qu'était le diagnostic de ce philosophe allemand Walter Benjamin, qui avait, dans une tradition qui annonçait la mort de la peinture, qui en avait rajouté une couche en disant, au fond, oui, la peinture est un médium obsolète, puisque par nature, presque, c'est un médium qui est incapable de s'approprier les données techniques qui sont celles du monde moderne, alors que le cinéma et la photographie sont capables de le faire. David Hockney a retenu la leçon, il a lu son Benjamin, et comme en réponse méthodique à tous les arguments de Benjamin, il épuise un à un chacun des outils. Et c'est la photocopieuse couleur, et c'est le fax, et c'est l'iPad, et c'est la caméra haute définition, etc. Donc il s'en empare, il travaille avec pour produire des œuvres, et ensuite il recycle ce qu'il a appris avec ce médium particulier dans la peinture, avec une idée évidemment qui est l'idée ancienne déjà de M. Baudelaire, qui consistait à faire de la photographie l'humble servante de la peinture. Lui, il en est encore là. Le fax et tous les autres outils sont d'humbles servants.
Hélène Delprat, à travers vous aussi, vos sauts d'un outil à l'autre, c'est cette pensée-là aussi que vous essayez de peut-être
la
de nourrir.
À ce point, comme chez Hockney, centrale et...
Alors, d'un blog à la vidéo, à la photographie.
Dans un premier temps, je ne faisais que de la peinture et j'avais l'impression, je répète un peu les choses, je me l'entends raconter, j'avais l'impression c'est un iceberg, il y avait la peinture au-dessus et tout ce qui était en dessous était complètement mélangé, les notes, les dessins, les expériences, le sport, la lecture, les autres, la musique, etc. Et je me disais que c'était pas intéressant. Enfin, quand j'étais plus jeune, je suis quand même... J'ai un certain âge.
Vous n'avez pas les 80 ans d'habitude.
Et à un moment donné, j'ai commencé à considérer toutes ces choses-là. J'ai inversé mon iceberg. J'ai commencé à développer ces petites constellations que je trouvais pas bien. Ça, c'est peut-être suite à l'enseignement. Il faut que ça soit bien fait, machin. Il s'agissait pas de faire des choses mal faites, mais il s'agissait d'explorer et puis d'aller dans des sens, de changer de point de vue, etc. Et la peinture est devenue finalement plus souterraine, mais très, très importante. Elle a commencé à ancrer. Et donc, je n'arrête pas de tourner mon iceberg. Et en ce moment, je suis avec la peinture en haut, voilà.
On va mettre un iceberg dans la piscine.
Et je lui ai dit, allons regarder la piscine, maintenant. Il a allumé les lumières placées sous l'eau. La nuit, on ne regarde absolument pas la surface. On peut voir les marches et tout le reste. Mais la lumière, juste sous le plongeoir, et tout de suite noir. J'ai pensé que ça, c'était passionnant, et je lui ai dit que le lendemain, nous nous mettrions aux piscines de nuit. David Hockney, cliché polaroïde de la piscine la nuit, piscine de papier, piscine à minuit.
Un texte de David Hockney, dit par une voix de France Culture, un extrait d'une nuit magnétique consacrée aux piscines. On entend la pratique du Polaroid par Hockney qui le pousse à entreprendre un tableau avec cette lumière noire sous le plongeoir. Et on évoquait la tension, la rivalité, peut-être la bataille, pour parler comme Picasso, de la photographie, du cinéma d'un côté et de la peinture de l'autre. On dit parfois que ce que la peinture a et que jamais la photographie, que jamais le cinéma n'auront, c'est la couleur. Un vrai rapport à la couleur. Est-ce qu'on peut dire un mot à présent, ou y revenir avec vous, Didier Ottinger, de ces couleurs qui sont celles de David Hockney?
Je crois que la différence fondamentale, elle ne réside pas dans la couleur, parce que la photographie est capable, avec un certain nombre d'artifices, de produire des couleurs tout à fait aussi éblouissantes que celles que la peinture peut produire.
Le cinéma est son chef opérateur.
Le fait est, pour David Hockney, c'est que la photographie représente ou exprime une vision du monde qui est une vision qui ne correspond pas ni à la psychologie ni à la physiologie humaine. On revient à cette idée d'un cyclope immobile. Et lui, tout son travail depuis pratiquement le début de son œuvre, c'est la question qui lui est posée. Mais à travers toutes ces différentes facettes que vous présentez dans l'exposition, qu'est-ce qui constitue le fil rouge au fond? La question lui a été posée plusieurs fois, la réponse de David Hockney est toujours la même, c'est l'espace, l'expression de l'espace, la tentative d'explorer de nouveaux espaces et de restituer ce qu'est la complexité de notre expérience, nous humains, dans l'espace. C'est la raison pour laquelle la photographie l'a à la fois épuisée et ensuite combattue. Combattue parce qu'effectivement, elle ne correspond pas à une vision normale, qui est une vision d'un homme qui n'a pas un œil, ou d'une femme qui n'a pas un œil, mais deux, qui n'est pas immobile, mais qui se déplace. Processus qui intègre évidemment des données comme celles de la mémoire. Et c'est tout ce travail-là, cette complexité-là, qu'il essaie de restituer dans ses tableaux depuis maintenant 60 ans.
Et qu'on retrouve également dans ces collages de polaroïdes éclatés. Vous évoquiez votre activité d'enseignante à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Hélène Delprat. Il se trouve que vous avez pu dire que le plus difficile, c'est d'apprendre à regarder et qu'ensuite, tu peux tout faire exploser. C'est aussi une réflexion autour de l'espace.
C'est le plus chez difficile, vous, c'est pas apprendre à regarder, c'est apprendre à se quitter, je pense, pour regarder autrement. Et un étudiant me disait, je disais, il suffit, vous êtes allongé, vous êtes recouvert de sable, il faut enlever, puis vous allez voir une main, puis vous allez voir autre chose. Et il me dit, et vous allez découvrir ce que vous êtes. Et il me dit, oh mais putain, c'est difficile de se déterrer. Et voilà, c'est ça, c'est difficile de se déterrer. Et je pense qu'il y a ça, c'est ne pas se ressembler, c'est se ressembler parce que c'est un peu confortable, et puis trouver une piste, et puis après c'est la contredire, changer de point de vue. Au Beaux-Arts, je fais plein de petits dessins, donc ils sont atroces, une petite barque. Alors je dis, vous êtes là, puis après la barque change de place, et puis vous voyez différemment, c'est plus grand, c'est plus petit, et c'est vous êtes plus grand, plus petit, vous êtes moins intelligent, plus intelligent, vous n'êtes pas vous, vous n'êtes pas ce que vos parents pense que vous êtes. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas de dire faut dessiner comme ça, faut faire, je m'en fiche de ça.
Mais qu'est-ce que vous avez déterré, ou peut-être qu'est-ce que vous avez quitté pour cette exposition à Edith My Way, donc qui ouvre demain à la Maison Rouge?
J'ai quitté ma peur, justement. Et parce que sinon, je n'oserais pas faire ça. Et puis, en même temps, je suis très, très reconnaissante à Antoine de Guelbert et Paula Eisenberg de m'avoir invitée. Et puis, Christophe Gaillard, voilà, ils ont combiné ça. Et je trouve ça formidable. Et le truc, c'est de... Moi, je suis mon premier spectateur. Et j'ai l'impression que l'exposition, c'est une même matière. Et par exemple, une fois, Christophe Gaillard m'a envoyé une photo. Et je me dis, mais comment il a cette photo de mon tableau, là? Parce que j'avais pas mes lunettes. Et en fait, il m'envoyait la photo d'un film que j'adore, qui est Le Voyage au centre de la Terre, en Technicolor. Et comme j'avais pas mes lunettes, et je trouvais ça très très beau. Je me disais, oh, est-ce un de mes tableaux? Non, j'exagère. Mais
c'était un fantôme.
Pour dire que, pourquoi je dis ça, je sais pas. Donc on revient au paysage.
On parle de se déterrer. Vous nous invitez à aller au centre de la Terre.
Voilà. Mais et en général, j'ai la fâcheuse tendance à commencer une phrase et je fais pareil, un peu pareil avec mon travail. Je bifurque sur un truc, je repars et je reviens. Donc là, je reviens au début, au paysage. Voilà.
Mais comment on parle et comment on enseigne l'espace dans une école d'art aujourd'hui? Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est...
Moi, j'enseigne pas l'espace.
Non.
Je suis plutôt... je n'enseigne rien. Je transmets et je dialogue et je raconte ce qui m'intéresse et je raconte... Et j'engage à être curieux, c'est surtout ça. Ne pas avoir peur, rater les choses, les essayer, ne pas être un artiste fabriqué professionnel, et encore une fois, ne pas se... Moi, j'enseigne rien, ce sont des conversations, et je fais des expositions de photocopies dans mon cours, donc je dis voilà, cette semaine, c'est ça. Moi, c'est ça. Et il y a des choses qui n'ont rien à voir, mais elles ont quand même à voir. Il y a des images que je perçois, et je ne les comprends pas. Il y a des artistes, pendant très longtemps, j'ai pas compris. Gréco, pendant très longtemps, je ne pouvais pas regarder ça, ça m'était désagréable. Voilà. Comment ne pas juger trop vite? Comment se taire, ce que je ne fais pas? Comment regarder? C'est ça, c'est ce regard-là. Et comment ne pas avoir d'a priori? Dessiner, aller dans les musées, dessiner des choses. Ne pas être contemporain, c'est être des gens en retard. Un artiste contemporain, ça devient une forme. Le contemporain, c'est fini, là. C'est fini, là. C'est le passé, maintenant. Donc oublions, c'est comme les performances, je ne parlais pas de performance, inventez d'autres mots, la performance est datée, il y a les actionnistes, il y a tout, et donc ça influence, on a comme une espèce de background comme ça, et on se met dans un autre paysage, dans un paysage d'histoire de l'argent. Non, essayez de manger tout ce que vous pouvez manger, et puis après, racontez-nous des trucs, étonnez-nous. Moi, je dis, je veux pas m'ennuyer, je veux que vous me racontiez des trucs terribles. Intéressant, n'importe quoi, vivant.
C'est l'art du récit aussi, un peu qui vient du dandy que vous leur transmettez.
Oui, d'oser, de lire, d'écrire. Je l'ai fait écrire beaucoup.
Il y a quelque chose de cannibale, puisqu'il est question de cannibalisme dans l'enseignement d'Hélène Delprat, David Hockney, Didier Ottinger.
Il a un point commun avec ce que vous décrivez, c'est le moment peut-être, disons, au début des années 60, lorsqu'il découvre et cannibalise partiellement l'œuvre de Dubuffet. Parce que vous écoutant, je me dis que oui, c'est presque une leçon d'art brut que vous donnez, non?
Attention, je pense que ça tire du côté d'Hélène Delprat.
J'aime pas que vous me disiez ça. Non, pas du tout. Mais non, parce qu'on ne peut pas donner une leçon d'art brut. Ce serait une leçon de fabrication de l'art.
Apprendre à révéler ce qu'il y a en soi de plus profond, de plus instinctif, non, de plus direct, de plus singulier. Il y a quelque chose
non,
comme
ça. Non,
mais
moi, j'ai des gens qui ont la tête sur les épaules et qui ne sont pas du tout des gens qui ont des problèmes, enfin, qui sont psychiatriquement défaillants. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas faire semblant de fabriquer des... Ça aussi, fabriquer de la maladresse, fabriquer du brut, c'est insupportable.
Ping-pong. C'est brutalement fini. Presque.
Quelqu'un qui se promène le long d'un paysage.
Chacun y fait ce qu'il veut.
Et ensuite, il recycle ce qu'il a appris dans la peinture.
Comment dire ? C'est pas un bazar parce que c'est très organisé, finalement.
Love life.
C'est assez chargé, je dois dire. Ah, j'aurais dû me taire.
Merci à garder. Beaucoup à tous deux, Hélène Delprat, Didier Ottinger. Il est temps de se taire et d'aller les yeux ouverts découvrir votre exposition I Did It My Way à la Maison Rouge à Paris, Hélène Delprat. À partir de demain et jusqu'au 17 septembre, il y a un catalogue coédité par la Maison Rouge et les éditions Phage qui l'accompagne, et vous serez à retrouver en septembre chez Christophe Gaillard à Paris dans sa galerie pour une exposition tout aussi personnelle à partir du 9 septembre. Quant à vous, Didier Ottinger, eh bien, vous nous invité chez David Hockney, dans toutes ses maisons, et chez ses amis au Centre Pompidou. C'est jusqu'au 23 octobre, et il y a également un catalogue qui a été édité sous votre direction.
Le ping-pong est un soir radiophonique qu'on déterre en équipe. Et quelle équipe à la rédaction ? Aïssette Wendoy, Jeanne Léos, Siam Boutata et Anna Baron. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Dofar Guéride et Théo Gomard.
Demain, foin de cannibalisme dans ping-pong, mais le chef qui a tellement d'étoiles que les généraux soviétiques en sont jaloux, Pierre Gagnaire, et à ses côtés, la designer Constance Guisset.
Et dans quelques instants, sociologue, historienne, femme politique, mais par-dessus tout féministe, dans Avoinus et Françoise Gaspard sur France Culture.